Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Bonjour. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver cette semaine encore une fois pour l'épisode du podcast Les coulisses du jeu. Épisode solo cette semaine. Donc, je suis là, on revient un peu au basique, faire des news tout seul. Donc, ce sera un épisode un peu plus court que d'habitude où on explosait les compteurs avec les derniers épisodes où je co-animais avec Benjamin, on était proche de l'heure d'épisode d'enregistrement. Là, cette fois-ci, ce sera un peu plus court avec juste quelques news que j'ai triées. L'actualité plutôt calme aussi, donc plusieurs raisons qui font que bah, voilà, ça sera un peu plus court le podcast. Donc, je répète un peu, hein, du coup, le podcast, c'est vraiment orienté sur le développement de jeux vidéo, les coulisses un peu du développement du jeu. On traite pas d'actualité de sortie de jeu, on traite plutôt l'aspect un peu technique, business, tendance, etc. Tout ce qui se passe plus côté tech, développement, plus pour les pros, on va dire. Ou si vous êtes intéressé par la carrière, pour faire carrière dans le jeu vidéo, c'est un excellent podcast. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez aller surtout mettre des notes, des petites étoiles, 5 étoiles sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, partout où nous retrouver. Vous pouvez nous noter, mettre un petit commentaire sur YouTube aussi. Vous pouvez nous suivre la chaîne YouTube, hein, ça peut aussi aider pour la visibilité de ce podcast. Eh bien, on peut attaquer les petites news de cette semaine. Donc, quelques petites news assez rapides. Voilà, des choses un peu en vrac, c'est le retour de Peter Molyneux sur le devant de la scène pour présenter un peu ses projets. Donc, il avait en fait a disparu de la circulation pendant quelques années suite à des critiques, le traitant un peu de menteur, etc., qui a été assez violent contre lui, et il s'était retiré voilà, en disant qu'il ne reviendrait plus dans le jeu vidéo, qu'il ne parlerait plus, qu'il quittait le milieu du jeu vidéo et tout. Bon, finalement, il n'a pas vraiment quitté le milieu du jeu vidéo, mais il continue à travailler sur 22 Cans, 23, non, 22 Cans, je crois que ça s'appelle le nom de la boîte. Et ils sont à peu près, ouais, je crois, une vingtaine de personnes à travailler dans cette société. Ils avaient notamment travaillé sur Godus, qui était sorti, qui avait fait un Kickstarter, qui s'était révélé être un peu problématique parce qu'il avait promis plein de versions, etc. Et finalement, il était sorti sur mobile et pour des raisons d'opportunité business. Et on apprend que Godus continue à bien performer sur mobile, même si ils n'ont fait aucune publicité payante, ils n'ont pas fait d'ads, etc. pour acquérir des utilisateurs, mais ça a plutôt bien marché. Donc, voilà, si vous voulez tester Godus sur mobile, allez-y. Et il y a quelques infos sur ces prochains projets qui vont arriver, parce que notamment, Peter Molyneux dit que sortir un jeu mobile, c'est cool, mais c'est assez chronophage et c'est assez stressant parce que ça ne s'arrête jamais, les jeux free-to-play. C'est du game as a service, donc il découvre un peu ça, hein, Peter Molyneux. Il est un peu nouveau là-dessus, j'imagine, et sur ce milieu-là, et que ben, finalement le game as a service, c'est sympa, ça... mais par contre, il faut tout le temps faire des mises à jour. On ne peut pas partir voilà, en disant, tiens, j'ai shippé mon jeu, j'ai envoyé mon CD, mon gold, la version gold de mon CD à être pressé, et après je peux partir tranquillou pendant quelques jours. Prendre des vacances, là, non, c'est pas possible. Il faut continuer à penser au contenu des mises à jour, etc., qui vont arriver par la suite. Donc, c'est pas aussi zen que le développement de jeux classiques sur PC ou console. Donc, du coup, il va peut-être essayer, justement, avec leur prochain projet Moat et Moat, de plus cibler le PC et console d'ici là, que ça sorte et que les choses ne changent pas encore une fois du côté de la direction de 22Kent. Il y a peut-être aussi un peu de temps qui va se passer. Donc, voilà. Mais c'est intéressant de voir qu'il revient et que finalement, même sur sa promesse de ne plus faire partie, de plus faire de jeux vidéo, il est revenu dessus comme la plupart en fait, il est assez connu pour faire plein de sorties médiatiques, des punchlines ou des promesses un peu délirantes et qui sont jamais vraiment réalisées dans ces jeux. Pourquoi ces jeux ne sont pas mauvais, c'est juste le delta entre les promesses et l'illusion qu'ils nous apportent, enfin la partie un peu le rêve qu'ils apportent souvent à la communauté des gamers et la réalisation finale, il y a tellement un delta que ça déçoit beaucoup de gens. Alors finalement, si l'idée est directement peut-être ce que le jeu va être, ça suffirait pour que ben, les gens soient juste contents du résultat, parce que les jeux ne sont pas mauvais, hein, le résultat final des jeux. Sont pas aussi mauvais que ça, c'est juste le delta qui est des fois un peu surprenant. Donc, voilà, c'est intéressant. Je mettrai un peu l'article de Peter Molyneux, hein, si vous voulez aller voir, c'est sur gameindustry.biz. Petite news aussi rapide, c'est Roblox qui demande à tous ses employés de revenir en présentiel. Donc l'ère du full remote touche un peu à sa fin, là. Toutes les entreprises commencent à redemander à ses salariés de revenir en présentiel ou à au moins en partiel, selon en hybride, quelques jours par semaine au bureau. Donc le full remote devient de plus en plus difficile, hein. Je pense, et c'est pas que dans l'industrie du jeu vidéo, on va dire, globalement, le full remote, c'était quelque chose de sympa, mais les employeurs ne peuvent pas revenir complètement dessus. Donc l'équilibre ici est de proposer quand même aux salariés de revenir à quelques jours quand même par semaine au bureau. Donc là, c'est Roblox, hein, on va dire le jeu vidéo, mais c'est une sorte de Minecraft-like où on peut créer pas mal de modes de jeu. Avec plein de modes, etc., qui peut être vendu, c'est cross-platform, etc. Le siège est à San Mateo, aux États-Unis, donc ils demandent justement aux gens de revenir. Ils ont jusqu'à, si je ne me trompe pas, l'été prochain, donc non, jusqu'au janvier 2024, pour pour qu'ils se, les gens aient le temps de les employés aient le temps de préparer leur retour au bureau de, au moins de façon partielle, et que en gros. À partir d'avril 2024, ils devraient pouvoir revenir à full time en présentiel sur les bureaux. Donc, ils expliquent ça, justifient ça, le retour en présentiel sur l'aspect créativité pour renforcer l'aspect créativité d'innovation et de plus renforcer la culture de l'entreprise qui était, selon eux, un peu perdue en étant en remote à distance. Je suis un peu, voilà, je suis un peu partagé entre ce qui est. On va dire ces déclarations et cette vision parce que je suis un fervent défenseur du remote, du full remote où je sais que ça marche parce que voilà, d'expérience, ça marche pas avec tout le monde et là, c'est effectivement, tout le monde n'est pas forcément taillé pour du remote à 100% parce qu'il faut quand même avoir une certaine discipline de travail. D'expérience entre quand je travaille au bureau et quand je travaille en remote, je délivrais beaucoup plus de travail. La quantité de travail fait est quand même assez conséquente, beaucoup plus colossale. En fait, on arrive beaucoup plus à terminer les choses, à beaucoup plus avancer, être beaucoup plus focus dans ce qu'on fait. Après, là où je rejoins peut-être le CEO de Roblox, c'est comment avoir une culture d'entreprise forte avec des gens détachés un peu partout. Malgré les calls, les visios, etc., c'est quand même assez dur de vraiment d'avoir une culture d'entreprise, d'avoir une certaine appartenance ou marquer cette culture d'entreprise. Il faut trouver des astuces, mais c'est pas forcément très simple parce qu'en étant en remote, on a peut-être tendance à se traiter un peu détaché de des valeurs des sociétés, etc. Donc il faut trouver des moments clés, des points clés, des choses, voilà, de réunions ou des visios qui permettent de renforcer ça ou même peut-être voir des gens en vrai, en présentiel, peut-être des fois de temps en temps pour renforcer cette culture d'entreprise qui est peut-être le point le plus critique à faire, à transmettre dans une organisation full remote. Donc, sûrement des exemples de full remote qui marchent. Hein. Mon exemple le plus concret, c'est Soci Seven Signals, ceux qui sont à la base de Basecamp et créateurs de Ruby on Rails, etc., qui travaillent beaucoup en remote, mais ils n'ont pas commencé forcément en remote à la base. Hein, donc, ils avaient quand même des studios, je crois, à la base, et puis après, ils sont partis en remote en cherchant des gens un peu à gauche, à droite. Mais cette culture d'entreprise est très importante, et du coup, pour des grosses sociétés, c'est peut-être un peu compliqué, notamment comme Roblox. Donc voilà, on voit de plus en plus de sociétés revenir un peu sur ces acquis, mais ils sont. J'ai l'impression qu'ils laissent encore la porte ouverte au travail hybride avec quelques jours de présence au bureau, quelques jours de remote. Donc, c'est peut-être le bon équilibre qui va rester sur la longue, sur la durée. Mais ici, bon, Roblox, il faut vraiment que les gens reviennent et que ça va vraiment à fond en présentiel. Autre news, c'est le Epic Games. Hein, on avait parlé un peu, peut-être, je ne sais pas si on avait abordé ou pas dans les podcasts, ils avaient lancé. Il y a quelques temps de ça, un programme qui s'appelle Epic First Run. C'est un programme introduit par Epic Games pour leur store, Epic Games Store, où on pouvait lancer des jeux en exclusivité et toucher 100% des revenus pendant les 6 premiers mois de lancement si on avait signé un deal d'exclusivité pour que notre jeu soit disponible 6 mois pendant 6 mois sur l'Epic Games Store et après On pouvait lancer notre jeu sur d'autres stores, sur GOG, sur Steam, etc. Du coup, c'était quelque chose d'assez intéressant. Si on voulait lancer notre premier jeu et garder 100% des revenus, c'était pas mal, c'était un bon deal pour les développeurs. Maintenant, Epic lance un nouveau programme qui s'appelle Epic. Epic No, le programme de l'Epic Game Store qui s'appelle No on Epic. Donc, No on Epic, c'est un programme qui permet de récompenser les développeurs qui veulent lancer leurs anciens jeux qui étaient sortis il y a un petit moment sur l'Epic Game Store. Donc, en gros, c'est ce qu'ils appellent les jeux de back catalogue. Donc, les vieux jeux qui étaient sortis il y a un petit moment de ça, qui sont pas forcément. En fait, tous les jeux qui sont sortis avant le 31 octobre 2023 et qui sont live sur d'autres plateformes, quoi, comme en fait en gros Steam, GOG, etc. Et ben, on peut les lancer sur l'Epic Game Store et on garderait, comme pour l'autre programme d'Epic Game Store, le First Run. Ici, le No One Epic permet de garder, ben, du coup, pendant 6 mois, pareil, 100% de revenus. Sur nos jeux du back catalogue. Donc après, l'autre condition, c'est quand même qu'il faut lancer 3 jeux. Il faut au minimum lancer 3 jeux en l'espace de 1 an, je crois, ou 2 ans. Ils doivent lancer au moins 3 jeux dans un espace de temps donné, je crois. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de lancer 3 jeux en même temps, mais il faut se dire que à partir du moment où vous rentrez dans ce programme, jusqu'en 2025, il faut pouvoir au moins lancer 3 jeux ou lancer tous les jeux qui sont live actuellement sur l'Epic Game Store. Donc l'idée, c'est que pour chaque jeu qui est lancé, vous gardez 100% des revenus pendant 6 mois. Et après les 6 mois, il y a le split habituel de 88% pour le développeur et 12% pour Epic, qui est un peu différent de la norme des autres stores, hein, qui souvent prennent 30%. Mais ici, c'est quand même un peu plus intéressant. Et donc c'est pour encore plus inciter les développeurs à lancer des jeux sur l'Epic Game Store. Après, moi, j'ai vraiment du mal avec l'UX et l'UI de l'Epic Game Store. Donc, pour moi, je vois pas beaucoup de gens, je connais pas énormément de gens qui jouent avec à des jeux qui sont sur l'Epic Game Store. La plupart du temps, les gens prennent les jeux, mais ils le lancent quasiment jamais, je suis quasiment sûr. J'ai pas les data, mais je suis presque sûr que il y a très peu de gens qui jouent au jeu directement sur l'Epic Game Store, à part peut-être Fortnite ou voilà, des jeux qui obligent à passer par l'Epic Game Store pour l'expérience de jeu. Mais clairement, ils devraient revoir l'UX et l'UI du launcher pour que ce soit beaucoup plus light, beaucoup plus facile d'accès. Là, c'est vraiment juste trop lourd. C'est peut-être ça qui pêche le plus sur ce launcher de l'Epic Game Store, sinon il y aurait beaucoup plus de gens, de joueurs et de ce fait, plus de développeurs aussi qui viendraient lancer leur jeu dessus. Autre news pour enchaîner, c'est peut-être qu'on l'a déjà traité, alors peut-être je vais faire un doublon sur un des épisodes qu'on a déjà traité par le passé, mais c'est l'appel à la candidature de Média 2024 pour le développement de jeux vidéo et de contenu immersif. Donc c'est la Commission européenne qui cherche à soutenir la création de jeux vidéo, et notamment tout ce qui est médias immersifs. Donc quand on parle de ça, il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, voilà, ça s'applique au PC, à des jeux consoles, mobiles, etc. Et donc c'est un programme, c'est une initiative qui a pour but, voilà, de soutenir les studios qui développent ça. Il faut juste rentrer dans quelques catégories, dans des cases, pour pouvoir prétendre ces aides. Un soutien financier, c'est notamment que le jeu soit assez original, qu'il soit pas une pâle copie de titres existants, et il y a pas mal de critères. Donc je mettrai le lien en note de l'émission si vous voulez aller voir ça. C'est pour voilà, pour vraiment dynamiser, accentuer le développement de jeux et d'expériences immersives, de contenu immersif au sein de l'Europe. Donc c'est quand même pas mal. Donc après, j'ai pas forcément le montant de l'aide ici, j'arrive pas à le voir, mais il y a plusieurs sélections, etc. Et il y a plusieurs financements qui sont disponibles. Donc le programme est assez complexe. Donc j'avoue que j'ai été voir sur le site, mais j'ai pas su retrouver des montants ou des choses comme ça qui sont disponibles. La seule chose que j'ai trouvée, c'est que vous avez une deadline au 24 janvier 2024 pour transmettre votre dossier, pour soumettre votre application, votre dossier de candidature pour pouvoir prétendre faire partie du programme ce programme de européen pour la pour Media 2024, développement de jeux vidéo et contenu immersif. Eh bien, je pense que cette semaine, on va s'arrêter là. Il y a pas mal d'autres news, hein, donc des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément revenu. Ah, si, peut-être un dernier truc assez intéressant, c'est la partie. Voilà, c'est la partie un peu des lois là, qui sont en train de travailler. Peut-être que je reviendrai peut-être un peu plus tard sur un autre épisode de podcast quand les choses seront un peu plus réglementées. Enfin, un peu plus clair sur la réglementation, justement, parce qu'il y a l'Union européenne et l'UK, hein, le Royaume-Uni, sont en train de travailler activement sur tout ce qui est achat intégré, sur les jeux free-to-play, sur comment les jeux monétisent, et est-ce que ben, il y a des choses qui vont peut-être impacter les développeurs de jeux, hein, que si vous faites des jeux vidéo free-to-play notamment, la façon dont vous monétisez vos jeux va peut-être être bouleversée par ces nouvelles lois et ces nouvelles réglementations. Notamment, il y a quelque chose qui est très surveillé, très stricté par les législateurs, c'est la partie tout ce qui est un peu dark pattern où on va pousser le joueur à consommer en utilisant des dark patterns. Donc c'est vraiment des patterns, c'est un peu traduit, ça ferait des patterns noirs, mais c'est pas ou sombre. C'est plus de dire ben je vais peut-être afficher des choses un peu perturbants ou qui vont prétendre des choses ou amener à une sorte d'addiction pour pousser le consommateur à consommer des choses un peu borderline qui sont peut-être vont peut-être être qui vont peut-être devenir illégales, tout simplement. Notamment, je pense qu'ils ont dans le collimateur tous les loot box et tout, donc il y a de moins en moins de jeux hein, qui proposent des loot box qui avaient déjà été interdits dans certains pays comme la Belgique, etc. qui avait interdit l'usage de loot box. Après, est-ce que tous les jeux sont revenus sur des loot box? Je suis pas totalement sûr, mais c'est pour ça qu'il y a eu les season pass et tout ça qui ont commencé à émerger, qui permettaient de voir à l'avance ce que le contenu qui pouvait être gagné. Donc c'est ce qui était une pratique qui avait un peu changé déjà dans la partie monétisation des jeux free to play. Peut-être qu'il y aura d'autres changements à venir. Donc j'essaierai d'avoir un article un peu plus détaillé sur ces changement de régulation, etc. la prochaine fois, et on reviendra sur cet article en détail plus tard. Eh bien, c'est tout pour nous cette semaine. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux aussi, hein, sur x.com, donc at quiz du jeu, quiz au pluriel, sur notre chaîne YouTube, et puis vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast préférées, comme je disais en intro. Excellente semaine à tous et à la semaine prochaine. Bye!